Bienvenue au balado Les Petits Caractères, l'espace de discussion qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Mon nom est Marianne Spear, je suis votre animatrice et aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université Dalhousie. Bonjour Sylvain.
Bonjour, ça va bien?
Oui, merci. Et vous?
Oui, ça va très bien. Ça va très bien.
Le sujet d'aujourd'hui, ben, c'est l'inflation alimentaire. Ça coûte cher, les prix à l'épicerie. On a l'impression que c'est légitime, étant donné que tout coûte cher et que l'inflation est très présente dans tous nos achats. Mais vraiment, c'est quoi qui se passe dans les épiceries? Est-ce que c'est légitime que ça soit aussi cher?
Ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas légitime, mais nous, quand on regarde ce qui se passe un peu partout dans le monde, ce l'est légitime. C'est un phénomène mondial, hein. D'ailleurs, le Canada a le deuxième taux d'inflation alimentaire le plus bas cette année au sein du G7.
OK.
C'est à 10,3%, c'est beaucoup quand même. Fait que les gens d'un peu partout là, vont dire ben on s'en contrefout de ce qui se passe en Allemagne ou en Italie, c'est chez nous que ça se passe, mais on s'en tire pas si mal malgré tout. Donc c'est difficile de pointer du doigt un joueur au sein de l'industrie et dire c'est eux qui sont responsables parce que c'est un phénomène qui est vraiment archi-mondialisé. Et puis, ce qui est particulier avec 2022, c'est qu'il y a eu une séquence de facteurs macroéconomiques. Les changements climatiques, évidemment, sont un facteur qui est toujours là, là. Ensuite, il y a eu les chaînes d'approvisionnement affaiblies par la pandémie. L'Ukraine, bien sûr, et aussi la devise qui nous a joué quelques tours là, cette année. Là. Donc, ce sont, à mon avis, les quatre plus grands facteurs qui ont influencé les prix au magasin cette année. Là.
OK. Fait que vous, en tant que spécialiste de l'industrie agroalimentaire, vous trouvez pas que c'est exagéré, ces prix-là? Parce que je dis ça pas pour essayer de vous coincer ou quoi que ce soit, c'est juste que je lisais les rapports comme quoi les chaînes d'épicerie enregistraient des records, des bénéfices cette année, tu sais, qui étaient records pour la plupart d'entre elles. Fait que je me disais que est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui a un peu utilisé l'inflation à quelque part pour mettre des prix plus élevés ou, tu sais, ça peut être aussi juste qu'on préfère prévenir que guérir, mais je me demandais votre opinion là-dessus.
Non, c'est une très bonne question. En fait, le problème, c'est que dans les analyses que moi j'ai vues là, dans les médias, c'est qu'on utilisait les montants en argent. C'est normal qu'une entreprise atteint des profits records à chaque année parce que c'est l'effet de l'inflation. À chaque année, les montants augmentent. Mais pour les pourcentages, puis c'est là que c'est important parce que les pourcentages, en fait, survit l'épreuve du temps, là, finalement.
Ouais.
C'est qu'avec les pourcentages, on peut comparer d'une année à l'autre. Puis nous, on a étudié les 6 dernières années des états financiers de Empire Sobeys, Loblaws et puis Metro. Puis on s'est aperçu qu'il n'y a pas vraiment d'abus. D'ailleurs, si vous regardez au dernier trimestre, là, Metro et Loblaws ont affiché leur vente alimentaire excluant le cosmétique, parfum, vêtements, tout ça, parce que en fait, on voulait démontrer qu'avec l'alimentation, on ne profite pas. Puis d'ailleurs, dans le cas de Loblaws, puis je prends Loblaws comme exemple, là, les ventes alimentaires ont augmenté de 6,8% au dernier trimestre. Or, le taux d'inflation est au-delà de 10. Fait que c'est là qu'on voit que Loblaws, Empire puis Metro là, font leur argent, font plus d'argent, mais en vendant d'autres choses. Prescriptions, cosmétiques, vêtements. C'est pour ça que je trouve que dans les médias, il y a eu un pêle-mêle de différentes choses qui ont été mal présentées, à mon avis. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a de l'exagération, mais il n'y en a pas.
Ben oui, mais je suis donc bien contente d'avoir ça comme réponse. T'sais, c'est assez,
ben,
on dirait,
ben,
à chaque fois qu'on parle du consommateur, là, il s'est fait avoir d'une manière ou d'une autre, mais là, tu sais, non. Fait que c'est une...
Ben pour votre groupe, c'est important pour les consommateurs,
ouais,
là, de comprendre que les entreprises ne sont pas là pour arnaquer les consommateurs, surtout dans un contexte inflationniste. Est-ce qu'on a des préoccupations par rapport à l'abus? C'est certain. On a des questionnements au niveau de la viande, par exemple. Les prix ont augmenté, c'est difficile d'expliquer pourquoi. Puis je ne pense pas que le travail doit être effectué au détail. C'est en amont de la chaîne où je pense qu'on a des problèmes. Au niveau du transport aussi, on pense qu'il y a eu de l'exagération aussi. Fait que votre question est extrêmement pertinente, mais c'est facile de pointer du doigt le détaillant, mais je pense pas que le détaillant est responsable.
C'est ça, c'est juste lui qui est comme au bout de la chaîne puis qui est le plus près du consommateur en
Qu'on
bout de
connaît
compte.
tous, c'est ça. Les consommateurs vont bien connaître le détaillant, donc c'est facile de point. Mais la chaîne d'approvisionnement, c'est beaucoup plus complexe que ça.
Super. Puis sinon, je me demandais si vous aviez des trucs pour faire face à l'inflation alimentaire. J'ai vu un article dans lequel vous avez collaboré avec TVA Nouvelles, puis vous disiez qu'on pouvait éventuellement économiser jusqu'à 30 % en suivant ces petits principes-là. C'est lesquels?
Ah, oh, il y en a un paquet, là, à part d'arrêter de manger, là, ce qui n'est peut-être pas souhaitable. En fait, si vous faites la même chose maintenant qu'il y a un an, vous perdez de l'argent.
OK.
Vous garochez de l'argent par les fenêtres. Ah, absolument. Parce qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs opportunités. D'abord, il y a des bannières à rabais. Le 30 %, je pense que c'est là que vous avez été chercher, c'est qu'effectivement, il y a des bannières à rabais au Québec. Qui offre de très bons prix. Puis souvent, c'est le même produit, la même marque, tout, 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 mais vendu ailleurs, puis c'est moins cher. Les gens s'en rendent pas compte. Les conditions de marché changent à chaque jour. Les prix des produits changent. Ce qui est différent d'il y a quelques années, la dynamique de marché est complètement différente. Alors, comme consommateur, avant de partir pour acheter quoi que ce soit, asseyez-vous, allez sur Internet, vous allez être en mesure d'aller chercher le prix d'un produit, de chaque produit sur votre liste. Alors, lorsque vous arrivez en magasin, vous allez voir s'il y a un prix qui dépasse le prix que vous avez sur votre papier, achetez-le pas. Attendez la semaine suivante en visitant un autre magasin. Évidemment, on n'a pas le temps de magasiner trois magasins par fin de semaine. Alternez entre deux, trois magasins en deux, trois semaines. Puis vous allez voir que vous allez devenir de plus en plus, vous allez devenir en fait un consommateur intelligent qui va avoir accès à beaucoup plus d'informations. Puis vous allez savoir exactement quoi acheter où. Mais ce n'est pas toujours la même chose à chaque semaine. D'accepter le fait que les conditions de marché demeurent statiques, c'est faux. Il faut vraiment, vraiment faire ses devoirs à chaque jour.
Puis est-ce que, tu sais, moi, j'aime bien ça encourager les petits commerçants, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de petites bannières, puis même que souvent c'est plus cher dans ces petites bannières-là. Mais à ta connaissance, y a-t-il des produits qui valent plus la peine d'aller chercher dans des petits commerçants ou dans des commerces locaux que dans des magasins grande surface?
Moi, j'encouragerais vos auditeurs à donner une chance aux petits commerçants. Les petits commerçants vont récompenser votre loyauté. Je prends par exemple les fruiteries qu'il y a à Montréal. Il y en a beaucoup, là. Et puis, vous allez être surprise là, à quel point il y a de bonnes aubaines. Puis même l'achat local, c'est assez intéressant. On vient de terminer un projet avec Aliments du Québec. On s'est aperçu que dans 70,84 % des fois, le panier québécois, le panier d'épicerie québécois est moins cher ou aussi cher que des produits qui arrivent d'ailleurs. Alors, il y a certains mythes qui existent qu'il faudrait peut-être éliminer. Donnez une chance au local, donnez une chance aux petits commerçants, puis vous allez être surpris. Moi, je pense que si vous prenez le temps un peu, là, vous allez voir, là, comparer, puis vous pouvez peut-être même épargner tout en encourageant les commerçants du quartier ou des produits locaux.
Puis est-ce que ça peut être un enjeu à moyen long terme, le fait qu'il y a de moins en moins de petits commerçants puis de marchés du coin, le fait que tu sais ça devient de plus en plus, je connais pas le terme économique là, je m'excuse, peut-être que vous l'avez,
Oligopole.
oligopole, excellent,
Ouais.
merci, j'avais
Ouais.
monopole, mais j'étais là, non man, c'est sûr parce qu'ils sont plus qu'un, fait que ça fonctionne pas. Mais ouais, on dirait que ça devient de plus en plus une oligopole, donc est-ce que ça peut être inquiétant pour le consommateur?
Absolument. En fait, j'en parlais au Parlement d'Ottawa il y a quelques semaines. Je témoignais pour me poser la même question. Est-ce qu'on devrait justement éliminer l'oligopole qu'on a en distribution alimentaire? Puis, ce que je leur ai répondu, c'est simple. Il y a rien de mal à avoir un oligopole. C'est que le problème, c'est qu'on n'a pas su protéger les indépendants en périphérie de l'oligopole. Et c'est pour ça qu'on a vu plusieurs petits commerçants disparaître. Et pour faire ça, il faut un bureau de la compétition qui est beaucoup plus féroce, beaucoup plus autoritaire. Et aussi, il faut qu'il y ait un code de pratique. Un code de pratique qui existe entre les commerçants et les transformateurs. Parce qu'actuellement, c'est celui qui a le pouvoir qui va dominer. Je vous donne un exemple. Si Loblaws va à un fournisseur puis lui demande de lui offrir des produits à tel prix, bien, le petit commerçant n'a pas le pouvoir d'achat. Un code de conduite entre les acheteurs et les vendeurs au sein de la distribution alimentaire pourrait aider les petits commerçants. C'est quelque chose qu'on voit en Angleterre et en Australie, ça fonctionne à merveille. On devrait, actuellement, Ottawa travaille sur un code de conduite et on devrait, en début d'année 2023, voir quelque chose.
Ah, bien, c'est encourageant.
Ah oui, absolument, absolument. Donc, ça réglerait le problème de l'oligopole. On n'octroie pas trop de pouvoir à un certain joueur parce qu'il faut comprendre que Loblaws, c'est un... Écoutez, Loblaws engage plus de 200 000 personnes. C'est le plus grand employeur privé au Canada.
Ah,
Loblaws
ouais.
A énormément de pouvoir. Loblaws peut détruire ou créer des entreprises. Loblaws a énormément de pouvoir. Alors, c'est peut-être trop de pouvoir. Là. C'est pour ça que ça serait important d'équilibrer tout ça et d'offrir une chance aux indépendants.
Puis en parlant de début 2023, là, vous avez un rapport qui est sorti dernièrement sur la prévision, je pense, des prix pour la nourriture.
C'est ça.
Est-ce que
ouais.
vous voudriez nous dire un peu à quoi on peut s'attendre selon vos prévisions?
Oui, ça a été dans les médias pas mal ces temps-ci, mais nous, on s'attend à une hausse de 5 à 7 % La première partie de 2023 va être une continuation de ce qu'on a vu en 2022, malheureusement, pour les consommateurs. Alors, c'est pour ça que c'est important de s'outiller d'une bonne stratégie, là, de changer notre méthode d'achat, là, parce qu'on n'est pas sorti du bois. Mais on voit la lumière au bout du tunnel, par contre, parce qu'on pense que ça va prendre fin éventuellement en 2023. Au milieu de 2023, on pense que les choses devraient se calmer, là. Donc, ça ne sera pas aussi pire. En autant qu'il n'y ait pas une Ukraine en 2023, en autant qu'il n'y ait pas de catastrophe, là, comme on l'a vu en 2022.
On touche du bois, tout le monde qui nous écoute,
exact.
On touche du bois. Mais je me demande, là, vous avez dit, pardon, une inflation d'environ 5-6 %, c'est ça?
De 5 à 7 %,
oui,
c'est ça.
5 à 7 %.
Puis les catégories qui vont être les plus affectées, ça va être les viandes et les légumes. Malheureusement.
Ouais. Ah oui.
Alors, les légumes, nous, on pense qu'il va. La devise canadienne va être un problème. Le dollar canadien pourrait faiblir contre le dollar américain, puis bien sûr, ça pourrait affecter le pouvoir d'achat de nos importateurs, surtout en hiver.
Est-ce que je peux m'aventurer à poser la question, pourquoi le dollar canadien faiblit dernièrement?
Ah, parce qu'il y a une course au sommet pour ce qui est des taux d'intérêt. En économie, pour les gens qui ne connaissent pas l'économie, plus que nos taux d'intérêt augmentent, plus que notre devise devient forte. Parce que les gens, les investisseurs veulent acheter de cette monnaie-là.
Okay.
Alors, actuellement, il y a un rapport de force entre la Fed américaine et la Banque du Canada. C'est pour ça que l'euro, en fait, faiblit parce que les taux d'intérêt n'ont pas augmenté aussi rapidement qu'au Canada. Actuellement, le dollar canadien rivalise contre le dollar américain, mais il est possible que ça ne dure pas. Donc, pensez que l'équation est simple. Plus que les taux d'intérêt sont élevés chez nous, plus que le dollar est soutenu par des investisseurs qui veulent investir au Canada parce que leur rendement est là.
Ah, OK, je comprends tout à fait.
Voilà.
En gros, les taux d'intérêt aux États-Unis augmentent plus vite. Ils augmentent vite au Canada aussi, mais là, la
si
banque...
Si les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis, ça peut faiblir le dollar canadien si nous, on n'augmente pas nos taux.
Oui, c'est ça. Puis là, on les augmente beaucoup depuis un moment, mais on veut pas non plus étouffer les gens. Là.
Exact.
On se sent quand même un petit peu étouffé, là, on va pas se mentir. OK, mais merci
exact.
Pour cette belle parenthèse. C'était très bien vulgarisé.
Il n'y a pas de problème. Je ne changerai même pas de frais de scolarité non plus.
Ben là, merci beaucoup. puis je me disais, l'inflation des prix de la nourriture avant l'Ukraine, avant la pandémie, ça ressemble à quoi par année habituellement?
En fait, moi, je pense que l'Ukraine a éclaboussé le monde. On ne sait pas trop à quoi s'attendre en 2023, mais on s'attend pas à pire.
Ouais.
L'Ukraine nourrit 400 millions de personnes par année à travers le monde.
C'est fou.
C'est plus que la population américaine. C'est pas rien. Là. Mais on
ne
s'attend pas à pire en 2023. Et si c'est pas pire... on devrait s'en sortir pas si mal. Les récoltes au sein de l'hémisphère sud, actuellement, Brésil, Australie, tout ça, là, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Il y a quand même de bonnes récoltes. Ça va nous aider, ça. Donc, ça va garder des coûts de production à la baisse chez nous pour les prochains mois. Donc, parce que le domaine des denrées agroalimentaires, il faut regarder partout dans le monde. Et là, actuellement, pour ce qui est de l'automne, là, pour ce qui est de l'automne en fait, qui est au sud de nous, là, ça augure quand même assez bien, là.
OK. Donc, c'est des bonnes nouvelles.
Oui, absolument. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour l'instant et espérons que les choses demeurent ainsi.
Excellent. Mais j'en retiens que dans tous les cas, on est mieux de changer ses habitudes de consommation en lien avec les changements qui se passent dans le marché de l'alimentation. Puis en ce moment, ben, pas le choix de magasiner, pas le choix de s'organiser un petit peu plus pour que ça soit rentable, au moins, là, notre magasinage d'épicerie.
Exactement. Donc,
Super.
il faut être vigilant et aussi stratégique.
Super. C'était Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université Dalhousie. Merci encore, Sylvain, et à la prochaine.
Merci, au revoir.
La chronique d'aujourd'hui porte sur mieux se connaître, prendre conscience de soi, de ses émotions et des comportements qui en découlent. C'est quoi le lien avec la consommation? Ben, je compte sur Joanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Options Consommateurs, pour nous l'expliquer. Bonjour, Joanne.
Bonjour, Marianne.
Alors, sur quoi porte ta chronique aujourd'hui? Quel est le lien avec la consommation?
Ben, écoute, moi, je pense que c'est important quand on veut parler là, de problèmes d'endettement ou de difficultés à faire son budget, de parler des causes qui mènent à ça. Évidemment, il y a des causes extérieures. Quand on parle d'endettement, ça peut être lié à des choses comme une perte d'emploi, la maladie, un divorce ou tout simplement un manque de connaissances sur les finances personnelles ou un manque d'organisation. Ça, tu sais, quand on sait que ça a rapport avec ça, on peut trouver des solutions, des outils relativement facilement pour aider la personne. Mais il arrive que parfois, que ce soit un petit peu plus profond que ça et que les difficultés qui sont liées à l'endettement soient
Ou
liées,
juste
en
à
fait.
atteindre ses objectifs financiers en général. T'sais, des fois, on n'est pas nécessairement endetté, mais on est comme dans une situation financière qu'on n'arrive jamais à faire évoluer puis
C'est ça,
à
il
atteindre les
va
objectifs
arriver des
qu'on se
fois
donne.
où on sait ce qu'on a à faire. On sait qu'on devrait faire ça. On a les connaissances pour le faire, mais on n'y arrive pas. Qu'à ce moment-là, ça se peut que ça soit lié à des causes qui soient un petit peu plus profondes et à la façon d'être de la personne ou à la façon de penser. Ça pourrait être lié, par exemple, à des idées limitatives qu'on a acquises. Par exemple, tu sais, quand moi j'aime une personne, ben je regarde pas la dépense, puis je vais lui prouver mon amour, puis je vais dépenser, dépenser sans compter. Là, on est plus dans le comportemental. Ça peut être aussi une difficulté à faire la différence entre un besoin et un désir. Ça, on en a déjà parlé dans une chronique précédente. Ça peut être lié aussi à des comportements défensifs. Et là, c'est un petit peu plus complexe. Ça, souvent, c'est lié à des émotions qu'on vit, qu'on ne reconnaît pas, qu'on n'a pas nécessairement conscience qu'elles sont là, mais elles agissent sur notre façon de se comporter. Et cela peut se répercuter dans la gestion de nos finances personnelles. Je vais vous donner quelques exemples.
Ouais, puis je vois aussi juste que parce que j'ai tes notes devant moi, là, tu as sauté juste le point où tu dis que ça peut être lié à des difficultés à s'organiser. Puis ça, je trouve ça très intéressant parce qu'en tant que TDA, vraiment diagnostiqué par une neuropsychologue, c'est un des défis là, auxquels je fais face.
Oui, on peut avoir des petits problèmes à s'organiser parce qu'on ne sait juste pas, on n'a pas eu de méthode d'organisation, mais parfois c'est plus que ça. Il peut y avoir un besoin d'aller consulter des experts pour avoir des solutions qui vont nous aider, entre autres, la médication, tout à fait.
Oui, médication, même, je pense qu'on m'a déjà référé à un ergonome, si je me
Un
trompe.
ergothérapeute,
Ergothérapeute, c'est
ouais,
quelqu'un qui
qui va
t'aide quand
vous
même à
aider à
organiser.
identifier exactement des solutions très concrètes en fonction de la difficulté que vous vivez, trouver des petits trucs qui vont vous aider à mieux vous organiser.
Fait que je comprends que ça, c'est une liste de causes plus intérieures qui peuvent lier à des problèmes financiers ou à des difficultés à atteindre ses objectifs financiers.
Exactement. Fait évidemment, il faut aller voir les spécialistes appropriés. Ça, ça commence déjà par être capable de faire une certaine introspection. Quand on est jeune, nos proches peuvent nous aider, nous orienter. Mais quand on est un peu plus vieux, on est face à soi-même pour faire cette introspection et aller voir les personnes qualifiées qui vont nous aider. Au niveau psychologique, parfois, tu sais, puis ça, c'est pas besoin d'avoir des gros problèmes, là. Tu sais, je parle d'évitement. À peu près tout le monde a déjà fait un petit peu d'évitement, au moins une fois dans sa vie. On sait qu'il y a des factures à payer, mais on repousse. Ouais. On a l'argent dans le compte, mais on repousse. On repousse. Le faire un petit peu, c'est pas si grave en soi. Mais quand on repousse beaucoup, vient un moment donné où les répercussions peuvent être beaucoup plus grandes. Faut savoir aussi, il peut y avoir des personnes qui vont avoir de la difficulté à respecter leurs limites. Par exemple, ton chum t'invite pour aller au restaurant, tu sais que t'as pas le budget, mais c'est ben trop gênant de lui
dire
non. Mais là,
il faut que je te pose la question. Si ton chum t'invite à aller au restaurant, c'est parce qu'il t'invite à aller au restaurant. En tout cas, ça, j'imagine, c'est une discussion à avoir en couple.
Il faut être capable de parler, d'avoir une bonne communication, définir que veut dire inviter pour toi, pour moi. Ça, il faut être capable d'entreprendre la discussion qui vient avec ça. On n'a pas tous le même sens, on n'accorde pas tous le même sens à ça. C'est une des façons de respecter ses limites, c'est de s'ouvrir, d'en discuter, et puis être capable aussi de dire « ce restaurant-là est peut-être pas pour ce mois-ci à la portée de ma bourse. On peut-tu aller plus à tel endroit qui respecterait plus mon budget? » ça peut être aussi des parents, par exemple, qui ont de 6 millions de petits-enfants à qui ils ont tant de difficultés à dire j'imagine. Non. Maman, je veux tel truc. S'il te plaît. Tu sais, avec la petite moue, là, pitou, là, des fois, ça peut être craquant, ça
puis
peut être dur.
Les grands-parents aussi, là, mais... que c'est leur rôle, et des fois, c'est juste de gâter.
Respecter ses limites, ça veut... c'est tant face à soi que face aux autres. Il faut apprendre aussi à respecter ses limites. Ça peut être aussi un problème d'impulsivité, de recherche de plaisir. Je le veux, j'ai une envie incontrôlable. Même si je n'ai pas l'argent, je vais y aller quand même parce que j'ai l'impression que ça va me faire vraiment du bien. Advienne que pourra. Avec ça, il y a des choses qui se cachent derrière
à la recherche de dopamine. Puis j'écoutais un balado justement sur la dopamine, puis à quel point que les réseaux sociaux, puis aussi la vie qui va extrêmement vite, ça déclenche la dopamine chez plusieurs d'entre nous à plusieurs moments de la journée, puis on devient un peu comme dépendant à ça. Puis ça peut mener à des achats impulsifs parce qu'on est à la recherche de dopamine, moindrement que le monde commence à ralentir autour de nous.
Tout à fait. Et la question est, pourquoi ai-je tant besoin de dopamine?
Oui.
Alors ça, il faut prendre le temps d'explorer un petit peu son soi-même pour essayer de découvrir ça. Ça peut être aussi une difficulté à se responsabiliser, hein, quand on a de la difficulté, mais que ça finit toujours par être la faute des autres, sans avoir la possibilité de se regarder et de voir... qu'est-ce que moi je peux faire, tu sais, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans. J'ai pas eu autant d'argent que je voulais, j'avais pas prévu qu'il fallait que je paye des impôts.
Ouais.
Je pense qu'on sait qu'il faut payer des impôts. Mm-hmm. Je pense qu'on sait qu'il y a des déductions à la source. C'est peut-être un petit peu irréaliste de s'attendre à ce que son talon de chèque corresponde exactement au montant qu'on a négocié avec son patron. Si c'était pas de mon ex, je paierais pas de pension alimentaire.
Oui, grand classique.
C'est ça, c'est pas de ma faute, c'est pour ça que j'ai pas d'argent. C'est des idées limitatives aussi qui empêchent de travailler avec qu'est-ce qu'on a.
Oui, c'est ça. T'sais, c'est comme peu importe c'est quoi la source, c'est ça ta situation. T'sais, qu'est-ce que tu vas en faire? Là? C'est
exactement.
Pas de se mettre à se taper sur la tête non plus, mais c'est de reprendre du pouvoir un peu.
Tout à fait, tout à fait, dans la même lignée de ce qu'on a discuté lors de la dernière chronique. J'aime ça quand tu dis ça, de reprendre du pouvoir sur soi, parce qu'on en a.
Oui.
Ça, on en a, mais il faut prendre le temps d'explorer à l'intérieur de soi. D'abord, peu importe le puis il y a d'autres comportements. Là, je peux pas faire une liste exhaustive ici, maintenant, mais... L'affaire qui est importante, c'est de comprendre qu'on n'est pas seul là-dedans. Ça, c'est des comportements qu'on voit régulièrement en consultation budgétaire. Puis on a tous fait un petit peu de déni, un petit peu
d'évitement,
puis de
d'impulsivité.
Oh, ben oui, ouais. on l'a tous fait un jour ou l'autre. Quand c'est répétitif, il faut savoir s'arrêter, puis si on en a besoin, aller chercher l'aide appropriée.
Bien, je tiendrais à dire que s'il y en a d'entre vous qui ont d'autres comportements de consommation ou avec leurs finances personnelles, qui ont l'impression que c'est peut-être un peu alarmant ou que c'est des comportements qui ne les aident pas, au contraire, qui les nuisent, n'hésitez pas à nous en parler sur Facebook, Option Consommateur, puis sur Instagram, c'est Option Conso, exactement. Puis, tu sais, Joanne est vraiment passionnée de ça, fait que ça va lui faire plaisir de, tu sais, faire des recherches sur le comportement, voir s'il y a des solutions, justement, à proposer, comme avec l'évitement qui est le fait de prendre action. Tu sais, il n'y en a pas d'autres, là, dans le fond, solutions, là.
C'est ça. Sinon, il y a aussi toujours l'option d'aller voir une personne qui va aller, une personne qualifiée qui va aller beaucoup plus en profondeur.
Ben, c'est encore là, c'est prendre action, c'est mais
ça.
Oui.
Oui, tout à fait. Ça passe par prendre action, demander de l'aide, briser le cycle.
Bien, je vous dis au revoir, c'est la fin du balado, mais à une prochaine, assurément. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast et encore une fois, je vous invite à aller donner vos commentaires, vos suggestions de sujets sur nos réseaux sociaux. À la prochaine et bonne journée!